Chapitre 14. Un secret. Il était 22h. Dans la maison des Ebesner, couvait un secret. Arma avait été priée de rentrer chez elle, bien qu'elle n'eût pas terminé la vaisselle et que la table ne fût pas débarrassée. Mackay lui avait dit qu'elle pourrait faire tout cela le lendemain, qu'elle avait assez travaillé pour aujourd'hui. C'était très inhabituel, et Arma avait songé qu'il devait se passer quelque chose de grave pour que son patron se comporte ainsi. Au moment de s'en aller, comme elle s'attardait devant la porte fermée de la salle à manger, elle avait entendu à travers la cloison Macaire s'écrier « Je ne laisserai pas Lev Levovitch me voler ma place de président !» Monsieur n'était donc pas certain d'être élu président de la banque? Était-ce ce qui le préoccupait tant ces derniers jours? Elle avait alors décidé d'espionner. Dans la salle à manger, Macaire et Jean-Bénédicte avaient planifié minutieusement ce qu'ils avaient baptisé « l'opération retournement », principalement élaboré par Macaire, selon un scénario digne de la P-30. Après de longs débats pour être certain que tout fonctionnerait parfaitement, Macaire et Jean-Bénédicte répétèrent soigneusement leur duo. L'opération retournement aurait lieu le surlendemain, jeudi soir 13 décembre, lors du dîner de gala annuel de l'Association des banquiers genevois dans la salle de bal de l'Hôtel des Bergues. C'était une soirée de premier ordre qui réunissait les membres des conseils et les associés des banques privées de la place. La crème de la crème. Jean-Bénédicte était censé s'y rendre, accompagné de Charlotte. Horace Hansen avait, lui, décliné l'invitation, mais Tarnogol serait là aussi. « Donc Anastasia et moi irons à ce dîner à votre place », récapitula Macaire. « Oui, Charlotte sera ravie de notre désistement, car elle a des billets pour assister à un concert d'orgue au Victoria Hall avec sa sœur. Et tu es sûr qu'Anastasia et moi serons ainsi à la table de Tarnogol ?»« Certain », assura Jean-Bénédicte. C'est toujours ainsi à ce dîner. Les banquiers d'un même établissement sont toujours placés à la même table. Je profiterai donc du repas pour faire bonne impression à Tarnogol, expliqua Macaire. Puis, un peu avant la fin de la soirée, je dis à Tarnogol que je voudrais avoir une conversation privée avec lui et je l'emmène dehors pour faire quelques pas sur le quai devant l'hôtel. La soirée est finie à 22h, précisa Jean-Bénédicte. C'est écrit sur le carton d'invitation. Emmène Tarnogol dehors vers 21h30. Ce sera le moment du café. Tous les invités seront occupés dans la salle de bal et les alentours de l'hôtel seront totalement déserts. Donc Tarnogol et moi faisons quelques pas, reprit Macaire. Conversation très sérieuse, je lui dis que je pense que c'est moi qui devrais être président de la banque. Nous marchons au milieu du quai des Bergues, longeant le Rhône. À cette heure-ci, il n'y a pas un chat, surtout en plein décembre. Nous serons seuls sur le quai désert et sombre. Oui. Entre le mauvais éclairage et la brume qui monte du Rhône, on n'y verra pas grand-chose, affirma Jean-Bénédicte qui empruntait souvent le quai des Bergues lorsqu'il devait rentrer chez lui à pied depuis la rive droite de la ville. Moi, je serai dans ma voiture, en embuscade. Arrange-toi pour marcher bien au milieu du quai. Vous êtes distrait par votre conversation, vous ne prêtez pas attention à la voiture qui déboule derrière vous et dont le conducteur a oublié d'allumer ses phares. Lorsque tu es positionné derrière nous, poursuivit Macaire, tu allumes tes phares et tu donnes un grand coup de klaxon. C'est le signal pour moi. J'attrape Tarnogol par le bras et je le tire contre moi de toutes mes forces. Nous finissons tous les deux par terre, dans une chute spectaculaire. Toi, Jean-Béné, tu accélères aussitôt et tu passes à côté de nous à pleine vitesse, comme si tu ne nous avais pas vus, et tu continues ta route, comme une fusée. Tarnogol comprendra alors que je viens de lui sauver la vie. Il devra reconnaître de quelle trempe je suis. Je vois mal comment, après un épisode pareil, il ne pourrait pas me nommer président. Jean-Bénédicte, après un long silence, manifesta une réticence. « Et si je rate la manœuvre et que j'écrase Tarnogol ?» s'inquiéta-t-il. « Impossible. N'oublie pas la consigne. Tu vas rouler très doucement jusqu'à nous, notamment pour qu'on ne t'entende pas. Tu n'accéléreras qu'après avoir donné le coup de klaxon lorsque je tire Tarnogol contre moi. Au moment où tu accélères, nous ne serons déjà plus dans la même trajectoire. Tu nous frôleras, ce qui donnera une impression de vitesse, mais tout ceci n'est qu'une illusion. Il ne peut rien nous arriver. Et si quelqu'un relève ma plaque? Place-toi suffisamment loin de l'hôtel pour que les employés ne puissent pas te voir. Et avant de passer à l'action, assure-toi qu'il n'y a pas de passants dans la rue. Le quai est suffisamment long pour que je prolonge notre promenade jusqu'à ce que tu sois certain qu'il n'y a pas de témoins. Quant à Tarnogol, Il aura roulé par terre avec moi, il n'aura pas le temps de voir quoi que ce soit. Le temps qu'il se relève, tu seras loin. De toute façon, tu as un modèle de voiture passe-partout. Personne ne fera le lien. Et puis, tu peux toujours mettre un peu de neige sur ta plaque, si tu vois ce que je veux dire. « Et si Tarnogol préfère marcher sur le trottoir ?» demanda encore Jean-Bénédicte. « À moi de faire en sorte de l'emmener là où il faut. C'est ma responsabilité. La tienne est de t'assurer qu'il n'y a pas de témoin. Lorsque ces deux éléments sont réunis, tu donnes le signal en klaxonnant. Je tire brusquement Tarnogol contre moi et tu disparais. C'est très simple. » Jean-Bénédicte n'était pas rassuré. Il finit par dire « Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Ça pourrait mal tourner, je trouve que tu vas un peu loin. » « Allons, ça n'est vraiment rien qu'un peu de comédie, » dit Macaire pour convaincre son cousin. « C'est plus que de la comédie, » rétorqua Jean-Bénédicte. Macaire prit un air agacé. « Tu sais quoi? Si tu veux me laisser tomber, fais-le. Je croyais que notre amitié était plus forte que ça. Tu m'avais dit hier que tu ferais ce qu'il faut pour m'aider. Je constate que tu as changé d'avis. En tout cas, ne t'attends pas à ce que je te traite correctement une fois que je serai président de la banque. » Cette menace acheva de convaincre Jean-Bénédicte. « Bien entendu, » ajouta Macaire, « notre petite opération doit rester absolument secrète, y compris de nos épouses. Personne ne doit rien savoir. » Macaire avait, malgré lui, prononcé cette dernière phrase sur un ton d'extrême gravité. Il se força aussitôt à un rire joyeux pour détendre l'atmosphère. Il ne voulait pas l'admettre devant Jean-Bénédicte pour ne pas l'effrayer davantage, mais il ne lui échappait pas que cette opération comportait des risques sérieux. Mais c'était aussi l'opération de la dernière chance. Arma venait de regagner son petit appartement du quartier des Eaux-Vives. Elle vivait seule dans ses deux pièces à l'angle de la rue de Montchoisy et la rue des Volandes. Elle s'était discrètement enfuie de chez les Ebesner après avoir entendu tout le récit du plan de Macaire et Jean-Bénédicte. Elle était inquiète. Elle se demandait comment tout cela allait se terminer. Elle se fit un thé et s'installa dans son salon pour examiner l'exemplaire de la Tribune de Genève rapporté de chez ses patrons. Les Ebesner la laissaient toujours emporter le journal, une fois sa journée de travail terminée. Elle observa attentivement la grande photo qui en faisait la une, à propos de laquelle Moussieu s'était passablement agité ce matin pendant le petit déjeuner. Sur l'image, deux hommes marchaient côte à côte dans le parc de la Perle du Lac, se souriant comme deux compères, entourés de gardes du corps sous les yeux hallucinés des autres promeneurs. Arma reconnaissait sans difficulté l'un des deux hommes. C'était le président de la République française. Le second, un très bel homme, élégant, s'appelait, d'après l'article, Lev Levovitch. À la lecture de ce nom, Arma leva les yeux de son journal effaré. Toutes les pièces du puzzle venaient soudain de s'assembler dans sa tête. Si ce type dans le journal, ce Levovitch, avait tant fait crier Moussieu ce matin, c'est parce qu'il voulait lui prendre sa place de président de la banque. C'était ce même nom que Macaire avait prononcé une demi-heure plus tôt dans la salle à manger. « Je ne laisserai pas Lev Levovitch me voler ma place de président !» Lev Levovitch, avec un nom pareil, il ne pouvait pas en avoir deux à Genève. Ce qui signifiait que ce Lev Levovitch du journal était également l'amant de Médème. Cela ne faisait aucun doute. La veille, lors de ce mystérieux coup de téléphone chez les Ebesner, Médème avait dit à son interlocuteur, Arma s'en souvenait parfaitement, « Tu es complètement fou de m'appeler ici, Lev !» C'était ce même Lev qui avait envoyé l'immense bouquet de roses blanches aujourd'hui. Lorsque Médème avait ouvert la porte tout à l'heure, elle avait eu l'air de connaître l'homme venu apporter les fleurs et qui ressemblait à un chauffeur. « C'est de la part de Lev, » avait-il dit. Médème pensait qu'Arma ne l'avait pas vu, mais Arma avait tout vu. Il y avait un mot avec le bouquet. Aussitôt que Médème en eut pris connaissance, elle était allée s'enfermer dans la salle de bain avant de s'enfuir, certainement pour le rejoindre. Lev Levovitch était à la fois l'amant de Médème et celui qui voulait voler la présidence de la banque de Moussieu. Arma fulminait. Elle attrapa un stylo et, d'un geste rageur, couvrit de traits noirs le visage de Lev avant de déchirer la photo pour le faire disparaître. Ah, comme elle le haïssait, ce briseur de ménage qui saccageait la vie de son patron. Puis, désemparée, elle attrapa sur la table du salon la photo de Macaire qu'elle conservait dans un joli cadre argenté. Elle contempla longuement le cliché. Il devait dater de quelques années, Macaire y apparaissait tellement serein. Il était élégant, en smoking, sans doute à une soirée de gala. Elle avait trouvé cette photo chez les Ebesner dans une boîte, reléguée au fond d'une armoire, débordant de photos qui attendaient d'être triées depuis des années. Macaire, si beau sur cette image, et personne pour l'admirer. C'était désolant. Elle s'était octroyé la permission d'emporter la photo qu'elle conservait depuis religieusement. Arma caressa le visage de papier, puis l'embrassa. Son Macaire, cet homme si exceptionnel. Elle lui sourit, puis elle lui murmura ce mot doux qu'il aimait tant. Chaton. Elle songea qu'elle était la seule à vraiment aimer Macaire. Elle s'empara d'un album cartonné posé sur la table de son salon et dans lequel elle conservait précieusement tous les articles retraçant la succession du père Ebesner et ce qu'elle pensait être l'avènement de Macaire. Comme elle le faisait presque tous les soirs, elle les passa en revue. Décès du banquier Abel Ebesner. Le président de la banque Ebesner est décédé dimanche soir dans sa 82e année. Il aura marqué le monde bancaire genevois de son empreinte. Abel Ebesner, disparition d'un grand banquier. Charismatique et brillant, mais également irascible, voici ce que l'on disait d'Abel Ebesner, un homme à la fois en avance sur son temps, tout en restant respectueux des traditions. Sous sa conduite, la banque familiale Ebesner est devenue le fleuron de la banque privée helvétique, distançant nettement les locomotives habituelles des places financières genevoises et zurichoises. Comme le veut la tradition de la banque Ebesner depuis sa création, c'est en principe son fils, Macaire, qui officie déjà au sein de l'établissement comme gestionnaire de fortune, qui devrait prendre sa succession. Qui succédera à Abel Ebesner? Une rumeur affirme qu'Abel Ebesner n'a volontairement pas nommé son fils, Macaire, président de la banque Ebesner, mais qu'il laisse le soin au conseil de la banque d'élire son successeur. Coup de tonnerre au sein de la banque Ebesner. L'avocat de la famille Ebesner, Maître Peterson, a confirmé lors d'une conférence de presse les dispositions prises par Abel Ebesner. C'est bel et bien au conseil de la banque que reviendra la responsabilité de nommer le nouveau président de l'institution bancaire. Abel Ebesner reste visionnaire jusque dans son trépas, a expliqué l'avocat avec son habituelle verve. Il a souhaité, pour le bien de la banque, rompre avec des traditions obsolètes et népotiques pour se tourner vers une élection qui assoira désormais la fonction de président, non plus sur la base de l'hérédité, mais sur celle de la compétence à diriger une banque d'une telle importance. Macaire Ebesner sera nommé samedi président de la banque Ebesner. La nouvelle a été confirmée à mot couvert par l'un des membres du conseil de la banque, qui a déclaré à un parterre de journalistes « Seul un Ebesner peut diriger la banque Ebesner ». Il n'y a donc plus de doute, c'est Macaire Ebesner, 41 ans, qui reprendra les rênes de la banque familiale dont il est le seul héritier. Pour certains, cette nomination par le conseil est un coup de génie de feu Abel Ebesner. Sans rompre avec la tradition, il offre une légitimité accrue à son fils. Pour d'autres, il s'agit surtout d'un énorme coup de publicité de la part de la banque Ebesner qui aura réussi à braquer toute l'attention sur elle. Arma referma son album d'un geste furieux. Comment Médem pouvait faire à Moussieu une chose pareille? Le tromper, et le tromper de surcroît avec ce type qui voulait lui prendre sa place de président à la banque. Comment Médem pouvait-elle le trahir ainsi? Depuis 10 ans qu'elle était au service des Ebesner, Arma avait été tellement fière de partager la vie quotidienne de ce couple modèle à ses yeux, et qui reflétait ses propres aspirations. Mais Médem venait de tout gâcher. Et la déception d'Arma était à la hauteur de l'admiration qu'elle avait toujours éprouvée pour Médem. Jusqu'alors, elle l'avait considérée comme une femme hors du commun, belle, vive, intelligente, drôle, douée pour tout. Celle qu'on remarquait immédiatement dans les soirées et les cocktails. C'était bien ce qu'il fallait pour avoir séduit un homme aussi extraordinaire que Moussieu. Et c'était bien pour cette raison que, malgré les sentiments qu'elle nourrissait pour son patron, Arma avait toujours été incapable d'éprouver la moindre jalousie envers Médem. Elle était trop supérieure, trop intouchable. Que pouvait-elle face à cette princesse russe, elle, la petite employée de maison albanaise, en tablier toute la journée? Mais Médem ne se rendait visiblement pas compte de la chance qu'elle avait d'être mariée à Macaire Ebesner. Elle ne le méritait plus. Moussieu devait tout savoir. Arma regrettait à présent de n'avoir rien osé dire à Mackay aujourd'hui. Elle avait été faible. Elle avait été lâche. Mais c'était fini. Demain, elle préviendrait Moussieu. Demain, elle lui dirait tout.